Amis, frères et sœurs, à vous qui croyez en Dieu et à vous qui doutez, à vous qui cherchez et à vous qui êtes fatigués de chercher, à vous qui êtes membres d'une communauté de foi ou à vous qui êtes sans église fixe, soyez les bienvenus à l'Oratoire du Louvre pour cette veillée de Noël. Bienvenue pour ce temps de culte, ce temps mis à part dans notre vie, et cette veillée sera ponctuée en musique, à l'orgue et au piano avec Simon Lawford, au chant avec Sylvie Jugnot et au violon alto avec Aline Cousy. Je vous invite à la prière. Éternel, notre monde est malade, traversé par les bouleversements, les injustices et les brutalités. Notre société est malade, traversée par les séparations, les rancunes, les tensions économiques, les désordres sociaux. Nos vies sont fatiguées, traversées par les deuils, les maladies, les inquiétudes, les peurs et les découragements. Mais toi, Éternel, tu rejoins l'humanité et la précarité de notre monde violent par la naissance d'un enfant dans la pauvreté d'une étable. Nous t'en prions, viens faire ta demeure en nous et nous croirons au-delà de nos peines et de nos épreuves. Viens faire ta demeure en nous et nous nous laverons au nom de l'espérance de l'enfant de Noël. Amen. Pour ouvrir ce temps de prière, je vous invite à prendre dans le recueil Louanges et prières le numéro 113, numéro 113. Et de ce numéro, de ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Alors, lorsque nous assistons à une veillée de Noël, chers amis, petits et grands, c'est une tradition de raconter une histoire dite de Noël. Alors, je me demande si dans l'assemblée, même dans le fond, il n'y aurait pas quelques jeunes, quelques adolescents qui pourraient venir nous rejoindre sur les premiers rangs pour mieux écouter. En tout cas, c'est possible. Vous pouvez vous mettre là si c'est plus simple pour vous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire d'un vieux cordonnier qui s'appelle Martin. Et cela se passe un soir de Noël. Et ce vieux cordonnier, après avoir travaillé toute la journée, se repose dans son petit magasin. Parfois, il se sent seul, et quand ce sentiment l'envahit trop fort, alors il ouvre sa Bible pour y trouver du réconfort, un soutien, un éclairage pour sa vie. Alors ce soir, là, qui était le soir de Noël, assis à sa table, il ouvre sa Bible et il se met à lire le récit de la naissance de Jésus, qu'on appelle le Christ. Et en particulier, il lit l'aventure des trois rois mages et des cadeaux qu'ils avaient apportés à l'enfant Jésus. Et il se dit, si ce soir c'était la nuit du premier Noël, eh bien si Jésus devait naître ce soir dans cette ville, je sais, moi, ce que je lui donnerais comme cadeau. Il se leva, il prit sur une étagère une paire de chaussures faites de cuir blanc, le plus souple, fourré de laine d'agneau, avec de belles boucles argentées qui brillaient doucement. « Je lui donnerai cela, c'est mon travail le plus fin. Mais je suis vraiment un vieil homme idiot, pensa-t-il avec un sourire, Jésus n'a aucun besoin de mes chaussures. » Alors il range les chaussures sur l'étagère, il souffle la bougie et il va se mettre au lit. Il fermait ses yeux quand il entendit une voix qui appelait son nom. « Martin, Martin !» Ouvrant grand les yeux dans la nuit, il ne savait pas d'où venait la voix et pourtant, il n'avait pas peur. « Martin, Martin !» Cette fois-ci, Martin en était sûr, il savait à qui était cette voix, c'était celle du Seigneur Jésus. La voix reprit. « Martin, tu as envie de me voir, n'est-ce pas? Eh bien, je t'annonce que demain, dans la journée, je passerai te visiter. Si tu me vois, offre-moi ton hospitalité. Je serai ton invité et je m'assiérai à ta table. » Martin écoutait sans bouger. Et la voix se tut. Silence. Un grand sentiment de joie remplit Martin. Il se sentait tellement heureux qu'il ne dormit pas de toute la nuit. Dès l'aube, il se leva, il rangea son petit magasin, il balaya le plancher, il tressa des guirlandes pour décorer la maison, il plaça sur la table un gros morceau de pain blanc, un pot de miel, des amandes, un pichet de lait et au-dessus du feu, il accrocha une marmite de soupe. Puis, quand tout fut fini, il s'installa à la fenêtre. Il était sûr qu'il reconnaîtrait Jésus et il pensa à la joie qu'il aurait quand il serait assis et qu'il mangerait le repas avec son invité. Un long moment passa et il était toujours assis devant la fenêtre quand il aperçut un vieux balayeur qui passait dans la rue, soufflant sur ses mains pour le réchauffer. « Pauvre homme, il doit être à moitié gelé, » pensa Martin. Ouvrant la porte, il lui dit « Entre, mon ami, et chauffe-toi, prends une assiette de soupe. » L'homme accepta l'invitation avec reconnaissance. Puis il partit. Une heure passa encore et Martin n'avait toujours pas vu Jésus quand il aperçut une pauvre femme portant un bébé. Elle avait l'air très fatiguée. Elle s'approcha de la maison de Martin pour se reposer à l'abri de sa porte. Rapidement, il lui ouvrit et lui dit « Mais entre, chauffe-toi, repose-toi. » Et la jeune femme expliqua « Voilà, bon, je vais à l'hôpital, j'espère qu'ils me laisseront rentrer parce que mon mari est parti travailler en mer et je suis malade, je n'ai personne à qui je puisse demander de l'aide. » « Pauvre femme, » dit Martin, « mange quelque chose et réchauffe-toi, je vais donner une tasse de lait au petit. » « Mais quel bel enfant! Pourquoi a-t-il ses pieds nus dans le froid? Je n'ai pas de chaussures pour lui, » soupira la mère. « Pauvre enfant, » dit Martin. Alors, Eh bien, rassure-toi, il aura cette belle paire de chaussures que voilà. Et Martin prit les jolies chaussures blanches qu'il avait rangées sur l'étagère et les glissa sur les pieds de l'enfant. Et voilà qu'elles lui allaient parfaitement. Alors la jeune mère remercia Martin, remplie de gratitude. Et Martin retourna à son poste près de la fenêtre et continua d'attendre Jésus. Les heures s'écoulèrent et d'autres personnes dans le besoin partagèrent encore l'hospitalité du vieux cordonnier. Il donna encore un manteau à l'un qui n'était pas assez couvert, une tasse de lait chaud avec du miel à celui qui avait mal à la gorge. Il écouta quelqu'un lui raconter ses malheurs. Il aida encore un autre avec un drôle d'accent à remplir un formulaire pour ses papiers d'identité. Martin, tout occupé, ne vit pas la journée passer. Mais l'invité tant attendu n'apparut pas. Quand la nuit fut tombée, Martin se retira dans son lit avec le cœur lourd. Oh, mais c'était seulement un rêve, soupira-t-il. J'ai espéré et j'ai cru, mais il n'est pas venu. Et soudain, la salle fut inondée par une lumière qui semblait venir du ciel. Et le cordonnier vit le balayeur, la maman malade et son bébé, et toutes les personnes qu'il avait aidées pendant la journée et auxquelles il avait apporté écoute, chaleur et réconfort. Chacun lui sourit et lui dit « Ne m'as-tu pas vu ? Ne me suis-je pas assis à ta table ?» Alors, doucement, dans le silence, il entendit encore la voix douce, répétant les vieux mots familiers. « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car j'avais faim et tu as partagé ta soupe. » J'avais froid et tu m'as donné non seulement un manteau, mais aussi des chaussures. J'avais besoin de parler et tu m'as écouté. J'avais mal à la gorge et tu m'as soigné. J'étais étranger et tu m'as aidé à remplir mes papiers. Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. La lumière brillait dans la pièce, comme elle brillait dans le regard de chacun. Mais elle brillait surtout dans le cœur de Martin, qui comprit que Jésus lui avait rendu visite à travers toutes ces personnes rencontrées. Il repensait à l'histoire de Noël qu'il avait lue dans la Bible et aux rois mages qui avaient apporté leur cadeau à l'enfant Jésus en suivant une étoile. Il avait à son tour trouver sa propre étoile à suivre. Alors je vous invite à poursuivre cette petite réflexion destinée aux enfants, quel que soit leur âge au fond. Eh bien, je voudrais vous inviter à prendre le deuxième cantique au numéro 91 qui s'intitule « Quel est cet astre radieux ?» Et je voudrais vous inviter à chanter les strophes 1, 2 et 3. Et je vous invite à vous lever. prenez place. Poète ou ingénieur, pauvre ou riche, jeune ou vieux, manuel ou intellectuel, chef d'État ou concierge, tous nous poursuivons une étoile dans le ciel de notre cœur ou le ciel de nos rêves. Comment s'appelle la petite étoile de lumière qui nous aide à vivre et à espérer encore et malgré tout? Santé? Justice? Paix? Amour? Bonheur? Tendresse? Liberté? Seigneur, tu le sais, le plus dramatique dans la vie d'un homme est de ne plus avoir dans son cœur ni étoile, ni désir fou de l'impossible, ni espérance. Alors, au fond de cette nuit trop noire, il se meurt d'ennui ou de désespoir. Seigneur, toi, le vivant, vainqueur des ténèbres du mal, donne-nous de croire que tu es la brèche de lumière qui troue l'épaisseur de notre nuit. Ouvre les yeux de notre cœur à l'étoile de la foi. Illuminé par l'étoile de la foi, aide-nous à dire non à toute forme de désespérance et à nous mettre en marche chaque jour, comme les mages, vers l'étranger, vers le pauvre, l'enfant qui a faim, vers l'exploité, le méprisé, notre voisin. Illuminé par l'étoile de la foi, soutiens notre marche vers des terres inconnues où tu nous donnes rendez-vous. Éclaire notre cœur et notre intelligence afin que nous puissions discerner les choix nécessaires pour construire la civilisation de l'amour. Illuminé par l'étoile de la foi, fais de chacun, chacune de nous, un témoin, un reflet de ta lumière, une étoile qui brille dans la nuit, une source d'espérance et une manifestation de ta tendresse et de ta paix.
Thank you. vous invite à entendre ensemble et à méditer ensemble l'évangile selon Matthieu au premier chapitre. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus.
Nous poursuivons la lecture de l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple. Il s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait. Et il les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Le voyage des mages partant d'un lointain pays pour arriver jusqu'à Bethléem est le début d'une lente révolution. Mais qui sont-ils ces mages ? Les mages, ce sont des savants doués ici en astrologie. Et celui qui écrit cet évangile, Matthieu, il ne dit rien sur eux. Il ne dit pas qu'ils sont rois, il ne dit pas non plus qu'ils s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar, il ne dit pas non plus qu'ils sont enterrés à Cologne, en Allemagne, selon la tradition. Il ne dit pas qu'ils sont de couleurs différentes. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont trois à cause des présents qu'ils ont donnés à l'enfant, l'or, la myrrhe et l'encens. Alors Matthieu écrit son évangile à des chrétiens en grande majorité d'origine juive. Et certains d'entre eux sont méfiants de voir arriver dans leur communauté des chrétiens non-juifs. Et par ce récit, Matthieu leur explique que dès le début, ces mages venus d'Orient reconnaissent Jésus comme roi et se prosternent devant lui, contrairement à ceux qui habitent Jérusalem et qui sont dans un pouvoir établi. Mais écrire tout cela à une communauté d'origine juive, c'est-à-dire à ceux qui ont le sentiment d'être le peuple choisi par Dieu, c'est quand même risqué. Parce qu'avec le récit des mages, l'évangéliste Matthieu vient dire aux membres de son peuple deux choses. La première, c'est que en l'enfant de Bethléem, Dieu se donne au monde. Pas simplement au monde juif, mais au monde tout entier. Pas seulement au monde des croyants ou des bien-pensants, mais au monde des athées et des superstitieux. Alors ce n'est pas rien de dire cela, puisque par la suite nous apprendrons que Jésus a été rejeté par les siens, qu'il a été condamné et mis en croix par les chefs des prêtres et les pharisiens, et que c'est un centurion romain, c'est-à-dire un homme païen, autrement dit un non-juif, qui reconnaîtra en lui le Fils de Dieu. Un autre évangéliste, Jean, dira dans le début de son évangile, « La lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. » La seconde chose que l'évangéliste Matthieu est en train de dire, en racontant cet épisode des mages ou des savants, c'est que Dieu n'est plus la propriété exclusive des croyants juifs. Et cela non plus, ce n'est pas rien de le dire, justement à un peuple dont la foi est régie par la loi de Moïse et des nombreux commandements qui viennent édifier la façon dont il faut croire et surtout qui viennent indiquer le contenu de la foi. Le Dieu de Moïse s'est révélé jusqu'à présent dans la loi donnée au mont Sinaï, dans le décalogue et tous les commandements qui en découlent. Mais dans l'évangile de Matthieu, Dieu se révèle dans cet enfant encore anonyme de l'étable de Bethléem, autrement dit là où personne ne l'attend. Cette façon de transmettre les choses est le début d'une lente révolution qui est commencée et qui n'est pas finie. Avec les prophètes du Premier Testament, comme Ésaïe ou Michée, il y a eu ces paroles prophétiques et libératrices, annonçant une lumière qui va guider tous les peuples, ou encore l'annonce d'une naissance d'un enfant à Bethléem, un enfant avec tant de dons qu'il finirait par conduire tout le peuple. Nous l'avons entendu dans la lecture. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui conduira Israël, mon peuple. » Mais rien n'indiquait que l'enfant naîtrait dans une étable. Alors les prêtres et les scribes du monde juif connaissent par cœur le contenu du livre de la loi et des prophètes, et ils savent interpréter correctement le contenu de la parole de Dieu, et ils ne tirent aucune conséquence de l'arrivée des savants devant eux. Ils apprennent par eux que la prophétie ancestrale est en train de se réaliser, mais ils les laissent partir à Bethléem sans y aller eux-mêmes. Ils n'éprouvent pas le besoin de vérifier correctement ce qu'ils ont appris et ce qu'ils croient savoir. Curieusement, ceux qui savent et qui croient correctement manquent le premier rendez-vous de la nouvelle façon que Dieu prend pour se révéler au monde. Alors, c'est bel et bien le début de cette lente révolution qui n'est pas encore finie. D'une certaine façon, Dieu change d'identité. Selon notre imaginaire, Dieu quitte les cieux, lieu de son éloignement, et s'incarne, comme nous le disons, présent dans un enfant, celui de Bethléem. Dieu est là tout entier dans la fragilité d'un enfant. C'est cela le début d'une vraie révolution qui démarre à Noël et qui continuera plus tard avec Jésus devenu adulte, parcourant la Galilée et la Judée, en soignant, en faisant des signes, et qui obligera les autres à se poser des questions, comme celle-ci. Est-ce que tu es bien le Messie annoncé par les prophètes, ou alors devons-nous en attendre un autre ? Frères et sœurs, quelle est cette lente révolution qui démarre ? C'est celle où Dieu nous rejoint dans notre marche vers des terres inconnues comme les mages au temps de la naissance de Jésus. Nous qui croyons à sa toute-puissance, eh bien, sa seule toute-puissance sera celle de l'amour désarmé, en un seul mot, qui, paradoxalement, sera celle de la vulnérabilité extrême, à la fois présente dans la fragilité d'une naissance et présente aussi plus tard dans l'impuissance d'un homme mourant sur une croix. Alors je crois vraiment que nous n'avons pas trop d'une fête de Noël tous les ans pour découvrir, redécouvrir inlassablement et de façon toujours inattendue le Dieu de Jésus-Christ. Noël est là non seulement pour nous rassembler, nous apaiser et nous remplir de joie malgré ce monde brutal qui est le nôtre, mais Noël est là aussi pour nous inviter à accueillir la présence du Dieu de l'Évangile, qui est tout autre, jamais comme on l'imagine, et qui aujourd'hui est symbolisé par un enfant nouveau-né, entouré de sa mère, nous dit l'évangéliste Matthieu, mais on sait aussi qu'il y avait Joseph derrière. Ce Dieu dont Jésus sera, à mon sens, le témoin incomparable, qui se tiendra le moment venu auprès des rejetés, des parias, des prostituées. Il relèvera les femmes adultères, il guérira les lépreux, il fera la première place aux enfants, il rémunérera le dernier autant que le premier. Et au moment ultime, il dira encore « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien voilà, c'est tout cela, ce Dieu présent en Jésus-Christ, que nous fêtons à Noël. Cet amour présent jusque dans les situations les plus insoutenables de notre monde. Et c'est cet amour-là qui est l'étoile des hommes. Pour la suivre, cette étoile, pour comprendre et recevoir cet amour promis à tous, y compris nous-mêmes, il va nous falloir, tout comme les mages de notre récit, rentrer par un autre chemin pour le reconnaître dans des endroits les plus improbables, là en particulier où des êtres humains luttent inlassablement pour la dignité de leurs frères en humanité, travaillant sans relâche au dialogue, à la réconciliation, à la paix et à la solidarité sous toutes ses formes. Oui, c'est une lente révolution qui a débuté il y a longtemps, mais qui continue encore aujourd'hui avec nous. Joyeux Noël à tous et à toutes. Je vous invite à prendre maintenant nos cantiques dans le recueil Louanges et prières et nous chanterons le cantique numéro 99. Les trois premières strophes de ce cantique 99. Voici l'enfant nous est né et je vous invite à vous lever. Et nous restons debout pour écouter cette prière que nous prendrons comme confession de foi. Et Seigneur, si tu veux m'attendre encore, je serai le quatrième mage, parti de nulle part, parti sans étoile aux cieux, pour un voyage au bout du temps, pour un voyage au bout de moi. Quand les ténèbres alentour brouillent toutes les pistes, quand ma boussole intérieure bat la chamade, quand ma route s'enroule sur elle-même, tu me montres quelque part dans la nuit l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi. Et tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, ce temps où j'avais rêvé tout autre. Tu me dis que tu m'attends encore, car la fête ne commencera pas sans moi. Et je serai le quatrième mage venu d'un voyage au bout du temps, de mon voyage au bout de moi. Je t'offrirai alors mon enfance, tapis sous les décombres de mon passé. J'adorerai l'enfant de Noël comme on s'agenouille émerveillé devant le miracle fragile d'une parole enfin devenue vraie. Et maintenant, je te vois en l'enfant de Noël s'agenouiller devant moi pour que je devienne enfin ton enfant. Et pour continuer ce texte, je vous invite à prendre le cantique numéro 109, Roi des êtres et des choses, et nous chanterons les strophes 1 et 3. 1 et 3. Cantique 109. Prenez place. Et c'est maintenant un petit temps d'annonce que je vais laisser à Juliette qui nous rejoint maintenant. Et je reprendrai la parole pour l'offrande.
Bonsoir à tous. Les annonces sont courtes ce soir, mais d'abord un grand merci à Agnès Adeline Schaeffer, à qui, avec la complicité de Béatrice Cléromazir, a présidé ce temps de culte. Et bien sûr aux trois artistes qui nous réjouissent les oreilles ce soir. À l'issue du culte, vous serez les bienvenus pour un pot dans la sacristie. Et demain matin, le culte de Noël à 10h30, présidé par Béatrice Cléromazir.
Merci. Et c'est maintenant le moment de l'offrande. Alors peut-être que dans les recueils louanges et prières, vous avez trouvé une enveloppe. Eh bien, c'est le moment de rappeler à chacun, à chacune, que notre Église ne vit que de dons, autrement dit, les vôtres. Alors, voilà, c'est un appel que nous appelons celui de Noël, afin que vous puissiez participer de près ou de loin à cette offrande, sachant que grâce à vous, notre Église continuera d'annoncer l'Évangile et d'être ouverte à tous. Prions ensemble. Être comme un mage, chercher dans le ciel un signe de ta présence et te trouver à terre, livré à ma bienveillance. Marcher de nuit et croire en chaque lumière qui dessine un chemin. t'attendre demain mais te trouver aujourd'hui, t'apporter une offrande et recevoir de toi l'immatériel présent d'un sens pour ma vie. T'adorer comme seul Dieu qui joue le jeu humain jusqu'à risquer sa peau pour conclure une alliance entre l'infiniment grand et mon insignifiance. Nous te prions. Au terme de cette année 2019 chargée de souffrances pour de nombreuses personnes autour de nous, et au seuil de cette année 2020 ouverte sur l'espérance, nous te prions pour la paix autour de nous et en nous fondée sur ton amour. Nous te prions pour l'espérance autour de nous et en nous fondée sur ton amour. Nous te prions pour recevoir le courage fondé sur ton amour. Le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et quand les combats pour la vérité semblent perdus. Le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous. Le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu, mais assuré que le chemin n'est pas caché pour toi. Et le courage d'être le corps du Christ afin de vivre la solidarité avec celles et ceux qui souffrent. Nous te présentons celles et ceux qui demandent le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Donne-nous encore le bonheur de vivre de ta parole, aujourd'hui comme demain, et de la partager avec celles et ceux que tu nous donnes comme frères et sœurs dans l'existence. Et d'un même cœur, nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous poursuivons notre culte qui se termine bientôt par le chant du cantique numéro 112. Cantique numéro 112, aux nuits bienveillantes. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur pour chacun d'entre vous. Allez dans la paix et dans l'amour que vous donne notre Dieu en Jésus-Christ. Joyeux Noël à tous. Et nous chantons un dernier cantique parce que c'est le moment où jamais, et il s'agit du numéro 101, au peuple fidèle, nous nous quitterons sur ce cantique. Mais en même temps, pas tout à fait, puisque nous avons un magnifique vers de l'amitié qui vous est proposé dans cette salle juste là, dans la grande sacristie. Et nous écouterons aussi donc un dernier morceau d'orgue joué par notre ami Simon. Et puis, je voudrais vraiment que tout à l'heure, nous applaudissions nos amis pour nous avoir réjouis de leur musique.